Bonjour les garçons, vous allez bien ?
Ça va.
Et ça va.
Ça va.
Qui est là aujourd'hui du coup, s'il vous plaît, autour de la table, on commence à ma droite ?
Lucas.
Ok, on te connaît bien Lucas. Ensuite ?
Junior.
Ouais, Junior, ok, toi on te connaît pas, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais là ?
Je suis venu pour ma première fois.
Ouais.
Pour tester l'émission radio.
D'accord, et tu vas à l'internat mais tu n'es pas dans le lycée Roland-Garros.
Ouais, c'est ça, je suis à Stéphane Essel.
Et, d'accord, et tu es en quoi à Stéphane Essel ?
Je suis en première S, SVT.
Ok, bon, super. Bienvenue en tout cas à l'émission Roland-Garros, à voix haute, ça s'appelle du coup. À toi, Johan.
Oui.
Donc toi, tu es ici, on te connaît bien. Merci d'être là. On a un autre invité qui n'est jamais venu parler au micro, du coup. Qui es-tu, toi ?
Aurélien, surveillant.
Ok, super, bienvenue. Bon, donc aujourd'hui, on est le mercredi, je sais plus, vous allez m'aider à m'en souvenir, on est le 7 décembre 2016.
Ouais, c'est ça.
Très bien, donc ça fait 15 jours qu'on a fait la dernière émission, puisque c'est tous les 15 jours. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, les garçons ?
Du nucléaire.
Du nucléaire. Donc, pour continuer avec les traditions, j'aime bien les traditions, on va faire une petite introduction philosophique, si on peut. On va essayer, en tout cas. Et donc, comme habituellement, on va essayer de faire un petit tour de table en se demandant chacun qu'est-ce que c'est pour vous, la philosophie. Est-ce que tu peux me dire, toi, Lucas, ce que c'est ?
C'est pour moi, c'est une manière de penser.
Ouais, ok, très bien. Voilà. Est-ce que tu as une idée, toi, Junior ? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose ? Si je te dis qu'est-ce que c'est que la philosophie pour toi ?
Là, du coup, rien ne me vient, mais je crois que c'est la manière de voir le monde, peut-être.
Une manière de voir le monde ? Ouais,
ouais.
Pourquoi pas ? Ok. Et toi, Johan ?
Ben, moi, je pense que, en fait, ça sert à approfondir un sujet.
Ouais, ok.
Ça va.
Et toi, Auré, t'as une définition ?
On en avait parlé il n'y a pas très longtemps, c'est l'amour de la sagesse, la volonté de rechercher une meilleure manière de voir, je suis d'accord avec toi, Junior. Meilleure manière de voir le monde, en tout cas meilleure, en tout cas plus efficace, plus approfondie.
Ouais, ok. Donc finalement, c'est peut-être une technique en fait, la philosophie, c'est peut-être une technique dans le sens un art de vivre peut-être. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je voulais justement faire une introduction sur la philosophie de la technique, puisqu'en fait, il s'agit de l'énergie nucléaire, qui est en fait le prolongement de ce que l'homme ou l'être humain crée depuis toujours et qui fait une de ses spécificités selon certains philosophes, c'est-à-dire des outils. Rapidement, pour moi, je dirais que la philosophie, c'est une manière de penser, comme tu as dit, comme j'ai dit, un art de vivre, une manière de voir le monde. C'est un peu tout ce que tout le monde a dit, je pense. C'est ma vision des choses, en tout cas. Quelque chose qui avait été dit dans les émissions précédentes que j'avais beaucoup aimé, je crois que c'était toi, Lucas, qui avait dit ça, c'était aller à la nature des choses.
Ouais.
C'est très bien, tu as été bien inspiré là-dessus. Donc, c'est-à-dire essayer de remonter le courant de la pensée, essayer de remonter le courant des choses dont on parle, essayer de creuser au plus profond pour comprendre vraiment ce que sont les choses. C'est une quête un peu de l'être aussi, en fait. En philosophie, de manière vraiment très précise et spécifique, on parle d'ontologie. Souvent, donc, c'est la recherche vraiment de l'être en soi. Et pendant l'Antiquité, des philosophes dont vous avez déjà au moins entendu le nom, comme Platon, étaient dans cette recherche-là, c'est-à-dire une recherche de la vérité absolue sur les choses, et notamment sur le vrai, le faux, du coup, le bien et le mal. Et donc, cette recherche-là, avec les découvertes qu'on pouvait faire, ben, devait nous permettre de vivre selon le bien, avec un grand B, comme aurait dit Platon. Voilà, je rigole parce que c'est des conversations qu'on a avec Aurélien de temps en temps et qui nous font bien rire. Bref, donc j'ai envie de dire que nous sommes des saumons, parce que c'est Bernard Stiegler, un philosophe français, qui utilise cette métaphore-là, que je trouve assez jolie et assez intéressante, puisque les saumons remontent le courant, donc pour aller pondre, je crois, on regardera très précisément ce qu'ils font. Mais en tout cas, nous, on remonte le courant de la pensée en direction de l'origine de ce qui est, et donc des choses en tant que telles. Si je vous parle de la technique, est-ce que pour vous, vous sauriez me dire ce que c'est que la technique ? C'est ça qui est intéressant, je trouve, en philo, c'est que du coup, on va se poser des questions qu'on ne se pose pas d'habitude. Pourquoi est-ce que là, du coup, je vous demande ce que c'est que la technique ? D'après vous, qu'est-ce que c'est que la technique ? Est-ce que vous auriez quelque chose à dire autour de ça ? Toi, en plus, tu es technicien outilleur, Lucas.
Ouais.
Est-ce que tu as réfléchi à ce que c'était que la technique ?
La technique par rapport au nucléaire, c'est ça ?
La technique. Tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la technique ?
La technique en général ?
Ouais.
Y a plusieurs sortes de techniques.
Tout à fait.
Y a la technique de fabrication, technique d'utilisation.
Ouais.
Mais après, pour moi, la technique, c'est... c'est un peu pour faire quelque chose, ouais. Avoir une technique, par exemple de la gestuelle pour fabriquer, une table, on va avoir une technique bien spéciale pour mettre les vis et des trucs comme ça, enfin, mm-hmm. pour moi c'est ça.
Tout à fait, ouais,
ça serait l'ensemble de savoir-faire qui permettent de faire la table.
Ouais, c'est ça, au niveau manuel.
Ok, et Junior, toi, est-ce que tu... Je te dis, qu'est-ce que c'est que la technique? Bon, est-ce que tu es d'accord déjà avec ce que a dit Lucas?
Ouais, il a déjà tout dit en fait, okay. D'après moi.
D'accord, bon. Et toi, Yohan?
Ouais, je pense pareil aussi.
Tu penses la même chose?
Ouais.
Auré, tu voudrais ajouter un truc?
Non, ouais. C'est bien, c'est une bonne définition, une bonne base.
Ouais, moi je trouve aussi. C'est l'idée en tout cas, déjà qu'il y a plusieurs techniques, c'est vrai. Mais du coup, si on suit Platon et l'idée de l'ontologie, c'est vrai que la philosophie aime bien essayer de dire ce que sont les choses en elles-mêmes. On peut dire ce que c'est que la technique en soi, c'est-à-dire la technique plutôt que les techniques. Parce que Platon pensait qu'il y avait des idées dans le ciel, des idées parfaites, et que ce qu'il y avait sur Terre n'était que, on va dire, la décadence des idées parfaites qu'il y avait dans le ciel. Donc il pensait par exemple que quelque chose qui est aussi banal qu'une chaise, eh ben, avait son idée dans le monde des idées, comme il aurait pu le dire, et que la chaise créée n'était que, on va dire, une image imparfaite de ce que l'idée de la chaise. Ça paraît un peu bizarre, mais en tout cas, disons que pour ce type de philosophie-là, il y a le monde des idées, il y a le monde terrestre, qui est l'imperfection par rapport au monde des idées.
Depuis mes sources du Nil jusqu'en haut de la tour Eiffel, j'aurais tout fait jusqu'à m'en étouffer, j'aurais tout jeté, mes refrains, mes couplets, écouter le studio, je l'aurais fermé, le micro, je l'aurais coupé, j'ai douté. J'avance sur des chemins chaotiques, venez goûter mes vérités dans les bouquins de Jean-Paul Gouteux, dégoûté d'avoir une vie non méritée. Regardez, je suis brillant, mais je reflète l'obscurité, identité. De porcelaine, j'ai fait ce morceau-là pour assembler le puzzle d'un humain morcelé. Jamais à ma place, les frontières j'efface et m'effraie comme Damas. Mon sentiment de race, blanc et noir, quand le sang dans mes veines se détraque. Je suis debout au confluent du fleuve et du lac. Mon métissage, c'est pas l'avenir de l'humanité. Mon métissage, c'est de la boue en vérité. Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent distinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Le camp de fleurs se rencontre, il n'en forme plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Un beau bordel chromosomique, demande à Benetton, mais laisse béton, on aura beau se mélanger, on restera des cons. La race humaine, un clébard, marquant son territoire, gueulant l'appartenance à son département, ni blanc ni noir. J'étais en recherche chromatique, mais le métis n'a pas sa place dans un monde dichotomique, donc c'est dit. Je suis noir dans ce pays, c'est pas moi qui l'ai voulu, je l'ai vu dans le regard d'autrui, c'est comme ça. Laisse-les chanter nos mélanges de couleurs, laisse-les parler de diversité, de France, black, blanc, beurre, on serait tous métis. Le reste c'est de la bêtise, voilà que j'ironise sur ce que les artisans de la paix disent. J'ai pas de frontières, j'ai pas de race, je suis chez moi partout sans être jamais à ma vraie place. Mon seul pays c'est moi, mon seul amour c'est toi, toi l'autre différent mais au fond si proche de moi. Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un et par fusion nos cultures deviennent indistinctes, elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Debout sur un socle, quand deux fleurs se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes, elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Métissé, prisé ou méprisé, j'ai dû m'adapter. Ballotté entre deux cultures, ça commence à dater. Adolescent, complexé, toujours en quête d'identité. Y'avait le blanc, y'avait le noir, j'étais celui qui hésitait. J'évitais de choisir à l'âge où l'on veut faire partie. Endossant la faute de tous les camps, je devenais martyr. On m'a dit 50-50, mais j'y ai pas trouvé mon compte. Car le glacier fusionne à l'océan à la saison des fontes. Je soupire, ça transpire, la connerie, ça s'empire. Quand on m'appelle le sang mêlé, sous-entendu issu de sang pur. Je vois bien, ces questions ne nous mènent à rien. L'humanité est colorée, donc soyons daltoniens. Je vous parle d'amour, moi, vu qu'il expire dans un mouroir. Je suis mulâtre et ben albâtre, voulant abattre le miroir. Et comme l'Afrique est en instance de sang entre ciel et terre, et que j'ai le cul entre deux chaises, j'ai décidé de m'asseoir par terre. Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Debout sur un socle, quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité.
Matisse. Yeah. Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un.
Bon, ok, c'est très bien. Par contre, on est d'accord, il n'y a pas une seule philosophie. La philosophie de platonicienne, et quand je parle du monde des idées, tout ça, c'est lui qui a créé ce système de pensée. Il y a tout un tas d'autres philosophies qu'on pourra voir à l'occasion qui n'ont rien à voir avec ça. Mais qui sont toujours dans cette démarche de quête de la vérité, art de vivre, éviter la souffrance, être libre. Voilà. Ok, ce que tu as dit, j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que c'est la technique ou les techniques, c'est pour faire quelque chose. En général, c'est ça, c'est essayer de trouver des moyens pour arriver à un but. Donc on peut dire déjà que la technique, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour faire quelque chose. Si on trace une ligne, on a une envie. On veut arriver quelque part, et pour arriver quelque part, on va mettre en place une technique ou des techniques. Donc c'est-à-dire c'est un moyen, c'est ce qui est entre l'envie et la réalisation de l'envie, pour justement arriver au but. Okay ? C'est pour ça que la philosophie est une technique, est un art. Dans le sens où si la finalité, c'est de connaître la vérité, d'être heureux ou de ne pas souffrir, il peut y avoir d'autres finalités. On peut dire que c'est une technique. C'est une technique de soi, c'est un art de vivre. C'est pour ça que je parlais d'art de vivre tout à l'heure.
D'accord.
Dans le quotidien, de manière très très pratique, je te parlais du coup de technicien outilleur. On a à peu près fait le tour, je pense. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que tu fais concrètement en cours ? Par exemple, en cours d'atelier, qu'est-ce que, je sais pas, hier ou avant-hier, qu'est-ce que vous avez fait de concret ? Vous avez travaillé sur des machines, j'imagine.
Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, moi, je devais travailler sur une machine, mais ouais. La machine est tombée en panne. Donc, du coup, je n'ai pas travaillé, mais sinon...
C'est les limites de la technique.
Ouais, c'est ça. En fait, globalement...
L'imperfection.
Ouais, ouais. Globalement, on travaille sur des fabrications de pièces qui vont amener à faire après d'autres pièces, en fait.
D'accord. Et donc, vous mettez en œuvre un certain savoir-faire, comme disait Aurélien tout à l'heure, qui est le vôtre et que vous êtes en train de perfectionner.
C'est ça.
Pour arriver à créer des choses. Donc, comme je disais, au départ, il y a une envie, la création de quelque chose, et puis il y a la mise en place de techniques pour arriver à créer cette chose-là.
Une finalité, ouais.
Ouais. Il y a un autre exemple dans le sport, par exemple. J'imagine que vous avez déjà entendu dire qu'un joueur était très technique, par exemple, au foot, par exemple, ou au basket, hein, qu'on connaît un peu mieux. Parce que justement, il a tout un tas de gestes, ce que tu disais tout à l'heure, tout un tas de moyens pour soit dépasser un joueur, soit marquer un but. Voilà, c'est ce qu'on appelle la technique ou les techniques. Donc vous voyez que les techniques, en fait, elles sont un peu partout, un peu dans tous les domaines. Justement, dans la tradition philosophique, quand on réfléchit à l'être humain, parce que c'est aussi ça la philosophie, certains philosophes, notamment une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt, pensent que l'une des spécificités de l'être humain, justement, c'est la technique. L'être humain, c'est l'être qui fabrique. En latin, on va parler d'un homo faber. C'est parmi tous les êtres qui existent dans le milieu naturel, dans le monde vivant, eh bien, l'être humain est particulier parce qu'il est tout le temps en train de fabriquer, tout le temps en train de créer des objets, des vêtements, des choses pour le plaisir, pour ce qui est nécessaire, pour manger. Enfin voilà, il a créé tout un tas de techniques. Pourquoi ? Parce que ces philosophes-là partaient du principe que l'être humain, à l'origine, est l'animal le plus dépourvu pour vivre de manière spontanée dans la nature, dans l'environnement. C'est vrai que tous les autres animaux, en général, ils sont, ou ils ont des poils, ou des griffes, ou un comportement en tout cas instinctif, dont nous on parle souvent de ça, qui est différent du nôtre, et du coup qui sont eux-mêmes adaptés à leur environnement, alors que nous on ne l'est pas forcément. Et donc, traditionnellement, on dit qu'on a créé des techniques, et que la technique c'est vraiment quelque chose d'humain par rapport...
C'est clairement une création. par rapport à l'instinct qui n'est pas une création, qui voilà. est un mode de fonctionnement habituel.
C'est ça. Spontané.
Spontané, voilà.
Mécanique. Sans réelle réflexion, quoi, du coup. Mais du coup, ça pose des questions assez fondamentales, pour utiliser un terme philosophique. C'est que ça oppose l'humain, justement, à la nature, l'humain à l'animal. Et de nos jours, et depuis un certain temps, il y a beaucoup d'études et de sciences dures comme... j'allais dire SVT, mais c'est pas bien sûr SVT, mais je sais pas moi, la zoologie ou enfin l'étude des animaux, par exemple, du comportement des animaux, qui tendent à démontrer que, en fait, la technique, l'intelligence, l'adaptation, c'est quelque chose qui existe pas du tout seulement chez les êtres humains, mais aussi chez les animaux, notamment chez les singes, évidemment, mais chez tout un tas d'autres animaux. Et donc, que finalement, la technique serait pas forcément quelque chose d'exclusivement humain. Encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, c'est juste une vision des choses, c'est une manière de regarder peut-être les animaux, qui nous a porté à penser ça, mais quand on regarde en essayant d'oublier que la technique c'est quelque chose de purement humain, on se rend compte que les singes, par exemple, certains chimpanzés qui vivent en groupe ont 5 types de bâtons, et s'ils ont 5 types de bâtons, c'est parce qu'ils ont compris que dans certaines situations ils doivent utiliser tel bâton, dans certaines autres situations ils doivent utiliser autre bâton. Il y a des bâtons qui vont tailler, donc pour tuer ou pour combattre contre un ennemi potentiel, je sais pas moi, un prédateur ou autre. Un bâton apparemment qui servirait de cuillère pour manger, donc ça c'est quand même particulier aussi. Y a des oiseaux aussi qui font partie de la famille qu'on appelle les corvidés, donc c'est-à-dire la famille des corbeaux, par exemple les corneilles et d'autres oiseaux, mais je ne suis pas ornithologue donc je ne sais pas exactement. En tout cas,
pas cette passion pour les animaux.
Non, et surtout que j'ai la phobie des oiseaux en plus, donc ça tombe mal. Mais en tout cas, juste pour dire que ces oiseaux-là, ils font un truc remarquable, c'est que d'abord ils cachent leur nourriture. Ils font un certain stock de nourriture, ils vont le cacher pour une certaine période de l'année, et ils sont censés revenir chercher cette nourriture à un moment donné. Bon. Et en fait, ces oiseaux-là se sont rendus compte que lorsqu'ils cachent leur nourriture, de temps en temps, il y a d'autres oiseaux qui le voient en fait, qui les voient en train de cacher leur nourriture. Et donc, évidemment, quand ils reviennent, il n'y a plus de nourriture puisque les autres oiseaux leur ont piqué. Donc, ils se sont adaptés à cette nouvelle situation-là, ce qui veut dire que du coup, ils ne sont pas si programmés que ça. Ils peuvent dépasser leur programmation et s'adapter à une situation qui n'était pas forcément prévue dans leur instinct. C'est-à-dire, ce qu'ils vont faire, c'est que soit ils vont mettre une pierre à la place de la nourriture qu'ils ont mis, et en fait, aller plus loin et mettre la nourriture à un autre endroit. Et du coup, comme ça, l'oiseau qui les surveille, ben, quand il va arriver et qu'il va sortir ce qu'il pense être la nourriture, en fait, il va tomber sur une pierre. Ou sinon, carrément, s'ils voient qu'il y a quelqu'un, qu'il y a un autre oiseau, eh ben, du coup, ils gardent leur provision et ils vont le cacher ailleurs. En faisant attention à ce qu'il y ait vraiment aucun autre oiseau, ils prennent le temps de regarder, de voir s'il n'y a aucun autre oiseau, et ils ne l'enfouissent dans le sol seulement quand ils sont sûrs qu'il n'y a pas d'autre oiseau et que du coup, ils ne vont pas prendre le risque que leur nourriture soit piquée. Ce qui veut dire, et ce qui prouve bien que dans le monde animal, il y a aussi une forme d'intelligence, il y a aussi une forme de conscience, en tout cas pas forcément de soi, mais du monde environnant et des autres animaux et des dangers qu'il peut y avoir, et que par rapport à ça, il y a des réactions. Et voilà, ça vous étonne, vous, que les animaux aient une forme d'intelligence? Qu'est-ce
non.
que
non.
vous avez envie de réagir non, à ça?
Je trouve ça logique.
Tu trouves ça logique? Pourquoi est-ce que tu trouves ça logique?
Ben, je sais pas. Je pense que toute chose vivante a une intelligence, en fait.
Ok.
D'accord. Sous diverses formes, mais...
D'accord, je pense aussi. Je pense. Toi, Lucas?
Bah oui, c'est vrai que c'est logique. Personnellement, c'est logique parce que, comme tu l'as dit, sur certaines circonstances, il peut du coup évoluer, en fait, sur le coup.
Mm-hmm.
Et il peut réfléchir à ce qu'il doit faire et comment contourner la situation si elle est grave, quoi.
Ouais, d'accord.
Donc du coup, c'est important d'avoir... un minimum d'intelligence pour ça.
Ouais, d'accord. Et donc en fait, ce seront les plus cons qui finiront
par être
bouffés par les autres, quoi.
Parce que, ben oui, parce que par exemple, l'exemple de l'oiseau, s'il n'est pas intelligent, ben, il va faire toujours la même chose. Et tous les autres oiseaux qui sont assez intelligents, ben, ils vont toujours venir. Donc du coup, lui, il va se retrouver sans nourriture. Au bout d'un moment, il va.
Ouais.
Qu'est-ce que tu appelles intelligent? Qu'est-ce que c'est l'intelligence?
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'intelligence?
Tu dis les animaux intelligents. Ouais.
Mais ceux qui ont compris le fonctionnement de cet oiseau-là, quoi. C'est ceux qui réfléchissent, en fait.
Ils réfléchissent?
Ceux qui réfléchissent et qui ont compris que faut faire comme ça, donc du coup, qui peuvent faire comme ça et que ça leur apporte un bénéfice. Donc du coup, faut
pas. C'est-à-dire qu'ils regardent ce qui se passe, ils analysent. Le milieu, et ensuite ils interagissent avec ce milieu.
Ça serait ça.
Ouais.
Bon, bah, écoutez, merci beaucoup les garçons. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à la question de la technique? Est-ce que ça suscite des interrogations, des questions, des réflexions? Ça viendra peut-être plus tard, mais si vous avez quelque chose à dire. Aurélien, tu...
Ouais, non, j'avais une question pour Julien, vu que tu es en SVT. Est-ce que pour l'instant, vous avez pas de cours de philo? Vous avez des cours de philo?
Non, pas encore.
Pas encore, d'accord.
Mais on a vu quelques cours sur le cerveau. Pas vraiment sur le cerveau, mais sur l'œil humain.
D'accord.
L'œil au cerveau.
Et tu pourrais me dire ce que c'est un être vivant? Vous avez appris ça encore ou pas tout à fait?
Un être vivant.
Vu que tu fais biologie, c'est un peu la science de la vie, du coup.
Ouais.
Qu'est-ce que tu étudies? Tu étudies des plantes, des animaux, des...
Pour l'instant, que le corps humain et ensuite humain. La géologie.
La géologie. Donc ouais. Ça, c'est les pierres, c'est ça, la géologie.
Les sols. Et là, on a parlé de la plasticité cérébrale.
D'accord.
Donc, c'est plus pour les humains, la manière de s'adapter à son environnement, tout ça.
Mm-hmm.
Genre, si un humain, il voit plus de l'œil gauche, par exemple, il va s'adapter de manière à pouvoir mieux voir de l'œil droit.
Ok, c'est extraordinaire, ça.
Ouais.
Plasticité.
Et on ne le fait pas consciemment, donc là encore, ouais. C'est un processus naturel, entre guillemets, dans le sens où ce n'est pas nous qui le faisons volontairement et consciemment. Et donc, c'est vrai que du coup, il y a peut-être, encore une fois, comme on disait, une intelligence du vivant, en fait,
ouais.
Qui s'adapte.
Elle était jeune, elle était belle, elle était seule, elle était mienne. Je la tenais au creux d'une main, je l'ai tuée un beau matin. Par mégarde ou par amour, fallait que je la gardais pour toujours. Elle ne chantera plus, l'amour aussi est assassin. Elle est belle, quand elle ne bouge plus. Quand elle ne chante plus pour Ézéchiel. Encore une fois te dire au revoir. Triste histoire comme c'est banal. Cimetière des rêves en déshérence, couché sur la pierre froide. Un bouquet d'espérance, l'amour, une tache dans le dos, impossible à ôter, à force de la gratter, ne laisse qu'une plaie profonde. Sa robe déplumée a perdu sa couleur, ses paupières se sont refermées sur la douleur. Je l'ai serré un peu trop fort, comme dit Oxmo, l'amour est mort. Je l'aimais à la vie, à la mort. Est-ce ainsi que les femmes vivent? Je la tenais à la gorge. Est-ce ainsi que les femmes meurent? Je l'aimais à la vie, à la mort. Est-ce ainsi que les femmes vivent? Je la tenais à la gorge. Est-ce ainsi que les femmes meurent? C'est sans tristesse qu'au petit matin, j'irai l'enterrer avec les autres au fond du jardin. Avec les promesses de la veille et tout un tas de souvenirs. Ma peine, tes désirs sont assouvis. Mais cette nuit je t'aime plus que jamais, avant que ne refroidisse ton corps. Vivons une dernière nuit encore, l'amour assassine les oiseaux de malheur. Fauché en pleine course pour un dernier vol de nuit. Allons, ne résiste pas ma douce, je t'offrirai une belle mort pour une drôle de vie. Amour, macabre, crime, poésie. Tout est faux ici, mythe, mirage, rythme et frénésie. J'ai déplumé sa robe en guise de préliminaire. Puis j'ai cloué ses ailes au sol, de gestes similaires. C'est ainsi que j'aime, surtout quand elle se laisse faire. Donner la mort sans la souffrance, travail d'expert. Je l'aimais à la vie, à la mort. Est-ce ainsi que les femmes vivent? Je la tenais à la gorge. Est-ce ainsi que les femmes meurent? Je l'aimais à la vie, à la mort. Est-ce ainsi que les femmes vivent? Je la tenais à la gorge. Est-ce ainsi que les femmes meurent? Il faut partir, une dernière respiration, un souffle suspendu en l'air, une ultime secousse. Ne gémis pas ma douce, je t'offre une belle mort. Fallait pas qu'on s'aime, on sait mes signes, on scelle ce cruel sort. Elle frissonne quand mes canines s'enfoncent dans sa chair. Le coup violacé, je m'applique à ce que sa volonté soit faite. Paraît qu'il faut du temps pour aimer. Moi c'est l'inverse, en un éclair tu m'offres ta chair, ce sera pour l'éternité. Sur ton cou, y'a comme deux points rouges. C'est la morsure du serpent, bien le baiser des dieux qui fait que tu te couches. On partira des lobes après avoir mélangé nos sangs. Mais y'aura pas de paradis, la mort n'éblouit que les innocents. J'aime entendre chanter les oiseaux. Ceux que je tuerai demain. J'aime entendre chanter les oiseaux. Que je tuerai demain. Est-ce ainsi que les femmes vivent?
Est-ce ainsi que les femmes meurent? Est-ce ainsi que les femmes vivent? Est-ce ainsi que les femmes meurent?
La technique du coup ben pour la, l'énergie nucléaire, parce que c'est un outil qui a été d'abord créé dans le domaine militaire. Et donc là, l'outil, ben, c'est l'armement. On revient juste après une petite pause musicale. Je crois que c'est vous qui avez choisi le morceau. Ça s'appelle Radioactive, justement. Ouais, et les artistes, c'est pas One Republic. C'est quoi, tu te rappelles, Lucas?
Imagine Dragon.
Vous êtes toujours là?
Ouais. Ouais.
Super. Donc c'était Imagine Dragons et c'était Radioactive.
Ça
tombe bien, on entre tout de suite au cœur du sujet de cette émission, qui est une émission radioactive évidemment, donc l'énergie nucléaire. Qu'est-ce que c'est que le nucléaire? On va essayer de faire assez simple parce qu'on peut très vite rentrer dans un jargon de scientifique que personne ne comprend et très technique. Justement, hein. Et on peut donner une rapide définition. Déjà, nucléaire, c'est un adjectif. Et en physique, moi, ce que j'ai pu trouver, tu vas nous aider là-dessus, Junior, parce que tu t'y connais mieux que nous. Ce qui est nucléaire, c'est ce qui est relatif au noyau de l'atome, d'où l'expression atomique. On parle de l'énergie atomique, on parle de la bombe atomique. Et donc l'énergie nucléaire, c'est l'énergie qui est dégagée par un procédé qu'on va employer sur les atomes. Je pense que Junior, tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus. Ce que j'ai compris en tout cas, c'est que l'énergie nucléaire, c'est le fait de réussir à avoir un impact sur la matière à l'échelle atomique. Est-ce que je me trompe ou c'est plus ou moins ça, Junior ?
Oui, c'est ça.
C'est ça ? Je crois qu'il y a deux types de réactions du coup sur l'atome. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est ces réactions qu'on va provoquer ?
Réaction de fission et de fusion.
D'accord. Quelle est la différence entre les deux ? Tu les connais ?
La réaction de fission, c'est une réaction au cours de laquelle un noyau lourd se désintègre en deux noyaux plus légers sous l'impact d'un neutron.
D'accord.
Et réaction de fusion, c'est deux noyaux plus légers qui s'unissent pour former un noyau lourd.
Ok.
En libérant de l'énergie.
D'accord. C'est ça. Ce qui est recherché dans ces procédés à chaque fois, c'est l'émission d'une énergie en fait. Ouais. Ensuite, on va pouvoir utiliser. D'accord. Et quelque chose qu'on n'a pas dit, ces atomes sont des atomes de quoi ? D'uranium.
Ouais.
C'est ça qu'on n'a pas dit, c'est important. C'est-à-dire que ce sont des atomes d'uranium sur lesquels qu'on va bombarder avec des neutrons. Et donc ils vont créer la fission nucléaire, c'est-à-dire c'est le procédé qu'on utilise depuis les années 40 pour créer de l'énergie nucléaire. Ok, bon, les choses sont déjà un peu plus claires. Vous aussi les garçons, ça va ?
Ouais.
Ok, très bien. Il y a un truc qui a retenu mon attention, c'est que la fusion nucléaire, c'est quelque chose qui existe déjà de manière naturelle, enfin même extra-naturelle du coup, parce que c'est pas sur Terre. Est-ce que vous savez où est-ce que ça se passe en fait, la fusion nucléaire ?
Le Soleil peut-être ?
Le Soleil. Le Soleil fonctionne par fusion nucléaire. Et donc c'est pour ça qu'on pourrait se dire que c'est intéressant la fusion nucléaire, parce que le Soleil quand même c'est quelque chose d'assez puissant, et que donc, d'après ce que j'ai compris, c'est moins dangereux la fusion que la fission, et il y a peut-être moins de déchets dans la fusion qu'il peut y en avoir dans la fission.
Ouais.
En tout cas, le Soleil, lui, fonctionne par fusion...
Par fusion d'atomes d'hydrogène 2 et voilà. 3 pour former de l'hélium 4.
D'accord, ok. Sur le Soleil, la matière, c'est le plasma, c'est ça qu'on appelle. Je crois que c'est ça, la matière qu'il y a sur le. Le Soleil est fait de plasma, et en tout cas, c'est la fusion des atomes qui crée cette terrible énergie qui éclaire nos jours depuis l'aube de l'humanité.
Ouais, une fusion continue, en gros.
Une fusion continue. Et je crois que c'est le cas aussi d'autres étoiles, en fait, il n'y a pas que le Soleil qui fonctionne comme ça.
Et c'est sans doute pour ça qu'à un moment, le Soleil s'éteindra ou explosera, et qu'il y a une vie des étoiles, parce qu'elles sont en constant mouvement, en fait.
Ouais.
Constant, il me semble, ça c'est ce que j'avais appris aussi.
Ok.
Qu'une naissance, puis une mort d'une étoile, et comme le Soleil est une étoile,
okay.
C'est sans doute cette fusion
ouais.
Continue dont parlait Junior, qui fait la vie.
Ouais, et qui finit par, du coup,
par
se finir. Ok. Bon, donc on a compris, ça désigne en fait l'énergie, enfin le nucléaire, finalement ça désigne une technique, mais une technique qui va très très loin dans la matière puisqu'elle s'attaque à l'atome, et pour l'instant on n'a rien trouvé de plus petit que l'atome, je crois, si, tu le sais toi ?
Non.
Non ? Ça ? Non. L'atome c'est le degré le plus petit qu'on connaisse de la matière ? J'ai peur de dire des bêtises, c'est pour ça qu'il faut m'aider, les électrons, c'est autre chose, c'est... Il y a les nucléons, tout ça, ça te dit quelque chose Junior ou pas ?
Non mais je crois que c'est le noyau atomique le plus petit.
D'accord.
Si je ne me trompe pas.
Okay. Il me semble qu'il y a le niveau quantique qui est encore en dessous, une échelle en dessous. Mais vraiment, je ne sais rien d'autre.
Ok, quantique. On pourra faire une émission sur la physique quantique, par exemple, si vous voulez. On invitera Hubert Reeves. Bref, vous connaissez Hubert Reeves ou pas ?
Non.
Non.
C'est
non.
Un monsieur qui travaille sur l'astrophysique et qui parle un peu comme ça parce qu'il est québécois. Bref, on rigole, mais c'est un monsieur assez fascinant qui parle de l'univers et qui parle un peu de physique quantique. Bref, il y a quelque chose dont il faut qu'on parle aussi rapidement, c'est la radioactivité, qui est autre chose, qui est liée à l'énergie nucléaire et à la question de l'atome, et à la question de cette échelle aussi petite de la matière, qui va être une conséquence de la réaction qu'on met en place pour qu'il y ait de l'énergie nucléaire. Et du coup, la radioactivité, ça va être, notamment à travers les déchets qu'on va aborder tout à l'heure, eh bien, l'activité des ondes, puisque radio veut dire onde en latin, c'est tout simplement le fait qu'il y a une échelle de la matière à laquelle, qui est invisible pour les yeux, mais qui dégage des ondes. Est-ce que tu peux être un peu plus précis que moi, Junior, sur ce point-là, la radioactivité ? Tout à l'heure, tu nous l'as bien dit.
La radioactivité, c'est un phénomène physique au cours duquel un noyau instable se désintègre pour former un noyau fixe. tout en émettant un rayonnement gamma.
D'accord. Donc, en fait, c'est l'émission d'un rayonnement. C'est ça, la radioactivité ?
Ouais.
Ok.
Rayonnement.
Et donc, un rayonnement qui peut contaminer. C'est-à-dire, c'est dans le cas de des déchets nucléaires, par exemple, ce qu'on va laisser dans les océans, parce qu'apparemment, ça se fait beaucoup de balancer des déchets nucléaires dans les océans, malheureusement, ou qu'on va essayer d'enfouir ou autre. Le problème, c'est que ces rayons... il y a quelque chose qui est important, c'est que ces rayons, ils peuvent traverser la matière, justement. Ils sont pas... Ça peut traverser les murs, par exemple.
Ça dépend du type de rayonnement.
D'accord. Est-ce qu'il y a, il y a plusieurs types de rayonnements ? Qu'est-ce que c'est, ces rayonnements qui existent ?
Alpha, bêta, bêta plus, bêta moins et gamma.
D'accord.
Et maintenant, alpha plus, c'est la réaction... alpha, pardon, c'est celle qui se passe sur le soleil.
Ok.
Et okay. Bêta moins... C'est une réaction au cours de laquelle il y a éjection d'électrons,
ouais.
Mais elle ne peut pas traverser une feuille du diamètre de l'aluminium.
D'accord. C'est un petit peu difficile tout ça, je pense, à saisir. Moi, j'ai un peu de mal. Je ne sais pas si vous y arrivez, vous, les garçons.
Ouais, idem pour moi.
En tout cas, la radioactivité, c'est le fait qu'il y a c'est l'émission de rayons. C'est le fait, ouais, qu'il y a des rayons qui sont émis. Okay. Du coup, est-ce que la radioactivité, c'est plus ancien que l'énergie nucléaire ? Tu le sais, on en a parlé tout à l'heure. C'est quoi, c'est quand à peu près, c'est qui
Le premier, c'était Henri Becquerel.
D'accord. Et ça, c'est début du XXe siècle.
Ouais, c'est ça.
Ou fin du XIXe, peut-être.
Début de... début XXe.
Ouais, c'est ça. Vers 1900.
1908.
Ok. Donc Henri Becquerel, et ensuite, on a d'autres personnes, je crois, Joliot-Curie, ça te dit quelque chose, ça?
Ouais, on a d'abord Pierre et Marie Curie.
Ouais.
Qui ont découvert le radium et le polonium.
Ouais.
Ensuite, on a Rutherford, qui a démontré l'espace dans l'atome,
okay,
dans la matière.
Ouais.
Et ensuite, on a Julio Curie et Frédéric.
D'accord. Bon, c'était la petite parenthèse sur la radioactivité, parce que c'est un terme qui est lié, qu'on entend souvent, et donc je voulais un petit peu revenir là-dessus. Merci, Junior, pour tes précisions, qui sont bien plus scientifiques que les miennes. C'est sympa. En tout cas, du coup, pour un petit historique, on va essayer de faire bref, parce qu'on a marqué plein de choses, mais on ne peut pas tout dire, c'est toujours pareil. Les premières recherches sur le nucléaire, ça a été pour mettre en place la bombe atomique, qu'on appelle aussi la bombe H, pendant la Seconde Guerre mondiale. D'après ce que j'ai pu trouver, les premières recherches ont eu lieu en Allemagne, donc en 1938, qui était sous le régime de Adolf
Hitler.
Ok, ouais. Donc sous régime nazi. Et il y a un institut à Berlin dans lequel les premiers chercheurs ont travaillé, qui s'appelle le Kaiser Wilhelm Institut. Je ne sais pas si j'ai le bon accent, mais en tout cas, c'est écrit comme ça. Et je le dis comme je peux. Et donc, en fait, ces chercheurs interprètent le phénomène de la fission nucléaire grâce à l'identification de l'élément barium, qui est une conséquence de la scission du noyau de l'uranium. C'est un peu ce dont tu nous as parlé, justement, Junior, tout à l'heure. Ça, c'est donc en 1938. Et c'est vrai que c'est important de préciser que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on oublie souvent, mais la majorité des inventions de l'histoire ont eu lieu justement pendant des périodes de guerre, puisque c'est des périodes qui, comme aurait pu le dire, je crois que c'est Lénine qui disait ça, que la guerre est un accélérateur de l'histoire. En général, quand il y a des guerres, eh bien, on va très vite, puisque c'est une question de survie, et donc on crée beaucoup de choses. Le cas du web, enfin de l'Internet, c'est aussi ça, je crois, c'est les États-Unis qui ont créé ça pour... Mais justement, peut-être pour balancer les bombes, je ne sais plus. Enfin, on pourra faire une émission sur Internet, si vous voulez.
Ouais,
il me semble que ça a été créé au début pour un usage militaire. Ok, donc ensuite en 1939, donc très peu de temps après, aux États-Unis, qui sont quand même l'autre puissance, qui est aussi l'autre puissance finalement en jeu dans cette guerre mondiale, et qui vont très vite le prouver, on a un projet qui s'appelle le projet Manhattan, qui justement, sous impulsion de Albert Einstein, qui aura discuté avec Roosevelt, eh bien, va permettre de développer la bombe. Einstein explique que les Allemands sont déjà en train de travailler dessus et qu'il faut justement que les États-Unis s'emparent de ce projet-là. Et donc arrive très rapidement à une bombe, à des essais et du coup à une dissuasion atomique, si on peut dire. Finalement, fin 1940, on a le plutonium-239 qui va être découvert par Glenn Seaborg. Et finalement, la fabrication de la bombe atomique qui est confiée à l'armée pour un coût de 2,5 milliards de dollars. Donc comme quoi, ça coûte de l'argent tout ça.
Mmh. Ouais, c'est pas gratuit.
On continue le fil de l'histoire avec le 2 décembre 1942. Un groupe de physiciens européens qui migrent aux États-Unis pour aider ce projet Manhattan et qui sont menés par l'Italien Henri Fermi ou Enrico Fermi, tu me parlais de Enrico tout à l'heure. Et donc là, donc le 2 décembre 1942, c'est la première réaction nucléaire en chaîne produite par l'être humain de l'histoire. Donc c'est la première fois qu'on arrive à créer une réaction en chaîne nucléaire. Puis, le 16 juillet 1945, on a le premier essai de bombe atomique dans le désert du Nouveau-Mexique. Le désert s'appelle le désert d'Alamogordo, donc au Nouveau-Mexique. Ça, c'est en général les vidéos qu'on voit, il me semble que c'est cette explosion-là, donc dans le désert états-unien du Nouveau-Mexique. Ensuite, il y aura eu, je pense qu'il y a des essais dans l'océan, on peut voir aussi des vidéos comme ça sur YouTube. Imaginez un peu les poissons ou les insectes, ouais. La gueule qu'ils ont dû faire quand ça a pété. Bref, et puis finalement, l'événement assez tragique dont on se souvient ou dont on ne se souvient pas parce qu'en fait on n'était pas né, c'est Hiroshima et Nagasaki. Hiroshima est frappé par ce que les États-Unis auront eu le culot d'appeler Little Boy, c'est-à-dire une bombe qui s'appelle tout simplement Petit Garçon, parce qu'elle est un peu moins puissante que la suivante qui s'appelle Fat Man. Donc Hiroshima, c'est Little Boy et c'est avec de l'uranium-235, et Nagasaki, c'est donc Fat Man avec du plutonium. Voilà, donc c'est pour faire un rapide historique et pour mettre en avant le fait que d'abord la recherche c'était pour
l'armée,
pour détruire, voilà, pour l'armée, ouais. Pour que les États-Unis soient les plus forts que les autres.
Pour se venger.
Comme d'habitude.
Ouais, c'est un peu ça. Voilà, donc ensuite à l'issue de ça, bon ben on sait l'issue de la guerre, hein, l'Allemagne va perdre. Moi, j'ai déjà entendu dire aussi qu'en fait, ces bombardements avaient été un peu inutiles parce qu'on avait déjà gagné la guerre, puisqu'au mois d'août 1945, l'armistice ayant été signé le 8 mai, c'était plus la peine en fait de bombarder. Oui, on est d'accord. Donc, est-ce que c'est les États-Unis en mode musclor qui ont voulu montrer qu'ils avaient été capables de faire ça et qu'il ne fallait pas les embêter ?
Ils n'ont pas signé l'armistice avec le Japon encore.
Ouais.
Ah, ok.
Je crois pas.
On l'avait signé contre
avec l'Allemagne.
Avec l'Allemagne, mais pas avec le Japon. Le Japon.
D'accord.
Allait capituler.
Ok, mais c'était pas encore fait.
Mais c'était pas acté.
D'accord.
En fait,
c'était pour se venger de Pearl Harbor, peut-être aussi.
Ouais, des Pearl Harbor.
En fait,
ouais,
c'est ça. En fait, les Japonais, ils étaient prêts à signer, en fait, parce qu'ils en pouvaient plus, quoi. Ils étaient vraiment en dessous de la terre, quoi. Et en fait, les Américains, ils se sont dit qu'on va utiliser le contexte de guerre pour lâcher les bombes, même si c'est inutile, parce que par exemple, dans 3 mois, ben. On aura gagné, ben on va quand même l'utiliser comme ça, on va voir ce que ça va faire sur l'environnement et tout ça, et comme ça on va leur dire nous on a les bombes, on est les plus forts, ouais c'est ça.
Okay. Ouais, c'est pour faire peur,
ouais,
je pense.
Ouais. Mais d'ailleurs vous avez déjà vu sûrement en histoire, après il y a ce qu'on appelle la guerre froide, avec justement le principe de dissuasion.
Ouais, là c'était vraiment là, ouais. Mais même aujourd'hui c'est une arme de dissuasion.
En fait, la bombe
atomique, parce que si un jour un pays lance des bombes atomiques sur un autre pays, ça va riposter. Les pays qui détiennent l'arme nucléaire, on a l'impression que ils sont forts et tout ça, mais je pense que le gouvernement il doit flipper, quoi.
Il doit
se dire, s'il y en a un qui fait péter une bombe, nous on va être obligé de le faire, donc du coup ça va partir en cacahuète. Donc je pense que c'est plus trop une arme de dissuasion maintenant.
Ça faisait partie des craintes qu'il y avait par rapport à Donald Trump, se dire qu'un mec comme ça pouvait être à la tête de la première puissance mondiale et avoir l'arme atomique. C'est vrai que ça faisait un peu flipper, quoi. Bon, ben du coup, c'est vrai qu'après cette exploitation militaire, il y a eu, comme on a dit, du coup, l'exploitation dans le domaine civil. Et donc, il y a eu la mise en place de centrales nucléaires pour produire de l'électricité principalement. Et la France, sous l'impulsion du général de Gaulle, a beaucoup œuvré dans ce sens-là, justement pour avoir une indépendance énergétique, on appelait ça à l'époque. Et donc aujourd'hui, la France est le pays le plus nucléarisé au monde, proportionnellement à son nombre d'habitants. Parce que les États-Unis étant beaucoup plus grands, ayant beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'habitants, c'est eux qui ont le plus grand nombre de centrales. Mais en France, proportionnellement, vu qu'on n'est que 60 millions ou 75 millions si on compte les départements et les territoires d'outre-mer, on reste quand même on reste le plus nucléarisé.
Hey!
les déchets nucléaires, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça arrive? Comment est-ce qu'on arrive à créer des déchets nucléaires? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que tu as une petite idée? Sinon, on passe rapidement, il n'y a pas de souci.
Les déchets nucléaires, c'est, ouais. c'est, on ne les crée pas, c'est après une réaction.
Ok. Donc, c'est à l'issue d'une réaction ouais. Dans une centrale nucléaire, en fait, il y a des déchets qui, dont il faut s'occuper.
Ouais.
C'est ça?
Et on les classe par niveau.
D'accord. Et quel type?
TFA, ouais. Très faible activité. Donc, inférieur à 100 becquerels par gramme.
Le becquerel, c'est une unité de mesure de la radioactivité.
Ouais.
Du nom du monsieur qui a...
Henri Becquerel.
Ok, d'accord.
Donc, c'est la radioactivité naturelle, en fait.
Ok.
C'est pas nocif.
D'accord. Ok.
Il y a FA, faible activité.
D'accord.
Niveau compris entre 10 becquerels et quelques centaines de milliers par gramme.
D'accord.
Là, elle est un petit peu nocive. Ça dépend de chaque individu.
Ok.
Il y a MA, moyenne activité,
mm-hmm.
d'un millier de becquerels à 1 million.
Ok.
Là, ça devient nocif. Il faut porter des combinaisons, etc.
D'accord.
Et haute activité.
D'accord.
De plusieurs milliards de becquerels par gramme.
D'accord. Et est-ce que tu as trouvé, concrètement, quand on est sur une centrale nucléaire, finalement, sous quelle forme sont ces déchets? C'est liquide, non? C'est ça ou pas? Est-ce que tu le sais? Il me semble que c'est liquide parce qu'il me semble voir des barils sur lesquels il y a, je sais pas si c'est la tête de mort ou je sais plus quoi, mais en tout cas qui dit radioactif. Ah non, c'est pas la tête de mort, c'est une sorte d'étoile.
Une espèce de truc bizarre.
Je crois que c'est un triangle.
Avec trois branches.
Ouais.
Tu sais?
Et un rond au milieu.
Ouais.
Ah ouais?
Bon, enfin, donc dans des barils, donc à mon avis, c'est sous forme liquide. C'est peut-être l'eau qui a été contaminée par l'uranium. Enfin bon, là, c'est vraiment des suppositions, donc il n'y a rien de certain. En tout cas, je parle d'eau parce que dans les centrales nucléaires, justement, et c'est un des problèmes qu'il y a eu à Fukushima, tu vas nous en parler.
Oui, tout à fait.
En fait, il faut qu'il y ait un refroidissement en permanence des réacteurs et ce refroidissement se fait grâce à de l'eau. Bon, en tout cas, le problème des déchets radioactifs, c'est un gros problème. Si tu as quelque chose de plus à dire, Junior, tu peux nous le dire, sinon on peut enchaîner sur la suite.
Surtout qu'après la réaction, ils se désintègrent pas complètement, en fait. Ils sont toujours là.
Qu'est-ce que c'est qui est toujours là?
Les déchets radioactifs.
Ouais, d'accord.
Et genre l'uranium, par exemple, il fait une demi-vie, il se désintègre pendant plusieurs milliards d'années, tout ça. J'en sais pas plus.
Ouais.
Mais à chaque fois, il fait demi-vie, et jusqu'à l'infini, en fait. C'est jamais complet.
Tu veux dire que c'est pas biodégradable?
Exact.
Ok.
Ouais.
Que, en tout cas, que ça met énormément de temps à se dégrader.
Énormément de temps. Okay. Ouais.
Et donc, c'est pour ça que l'idée, c'est d'arriver à trouver des moyens de confinement, des moyens dans lesquels on peut mettre ces déchets radioactifs pour pas que ça contamine les champs, l'eau, nous-mêmes, l'alimentation, etc.
Ouais,
c'est pour ça que dès qu'il y a des projets de construction de centrales, comme c'est le cas à côté d'Agen, là, par exemple, il y a souvent des revendications citoyennes pour empêcher ces constructions parce qu'on sait que ça va créer de la radioactivité et qu'on va être pollué et que l'on a marre d'être pollué. Quoi. Ok, est-ce qu'on se fait une petite pause musicale et on enchaîne ouais. tout de suite après pause musicale, du coup, on va mettre Peter Tosh, ça s'appelle No Nuclear War, donc c'est contre la guerre avec la bombe atomique. Nuclear war, we won't get far. Just another Holocaust, and we can't.
sober bar one, where lots of trouble begun. I saw World War II when the pirates came right through. Looking for World War III, but you got to set me free. Free from the chains and this here misery. Cause I say that we don't want.
Bon, ça va toujours ?
Ouais, ça va, nickel. Ouais.
Vous avez écouté Peter Tosh un peu ou pas ?
Non ? Ouais, ouais.
Bon, le morceau s'appelait No Nuclear War et c'est de Peter Tosh, du coup un pote de Bob Marley qui jouait dans The Wailers. Bon, on continue du coup avec le nucléaire et là on est sur le point un peu même bien négatif, c'est-à-dire les accidents, les accidents de centrales nucléaires. Tu peux nous en parler s'il te plaît, Yvan ?
Oui, tout à fait. Alors en fait, l'accident de Fukushima, il s'est passé le 11 mars 2011 au Japon. Il s'agit d'un accident nucléaire majeur classé au niveau 7, c'est-à-dire le niveau le plus élevé au niveau de l'échelle internationale des événements nucléaires.
D'accord. Donc c'est très grave.
Alors en fait, ce qui s'est passé à peu près, il y a eu un problème de refroidissement et l'eau donc elle a commencé à bouillir en fait, c'est-à-dire à atteindre les 100 degrés à peu près et la pression elle est montée jusqu'à dépasser les 1 million de pascal, donc c'est énorme, ça fait 1 million de kilos. Et à cause de ça, en fait, il y a des réacteurs qui ont complètement explosé.
D'accord.
Et il y a même un toit d'un bâtiment qui a été complètement soufflé. Ensuite, en fait, ils pensent que la cause, ça a été à cause de l'hydrogène qui a été évacué, en fait.
D'accord.
Et de la pression. Donc ça fait une catastrophe, quoi.
Ok. Et donc, en fait, le problème, ça a été le manque de refroidissement des réacteurs.
Ouais, tout à fait.
C'est ça. De ce dont on parlait tout à l'heure, bon, c'est dommage parce qu'on n'a pas eu le temps d'expliquer un peu le fonctionnement d'une centrale, ce qui aurait permis de comprendre ça. Mais il y a autre chose qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un tsunami ou un séisme aussi.
Ah, voilà.
Le tsunami. Donc
c'est ce que j'avais demandé.
C'était la cause, en fait.
Ouais, moi, c'est ce que j'avais demandé. J'allais dire, mais oui, mais c'est quoi qui a provoqué justement le fait qu'il y ait eu cette catastrophe, en fait. C'est pour ça, parce que je me suis souvenu d'un coup qu'il y avait eu un tsunami, je ne sais pas où, là, qui avait déclenché qui avait une centrale nucléaire qui avait été touchée, je ne sais pas quoi. Et je ne pensais pas que c'était celle-là, en fait.
Mm-hmm.
Et donc, du coup, c'est celle-là.
Ouais.
C'est
celle
que d'accord.
Ouais, okay.
Donc, c'est vraiment un problème technique. Donc,
oui.
Ça pose la question de la sûreté nucléaire, on dit, je pense.
Ouais.
C'est-à-dire à savoir si on est capable de gérer cette technologie-là et gérer cette énergie-là qui peut être aussi créatrice que destructrice, c'est toujours pareil. Hein.
Donc en fait, si je comprends bien, sur cette centrale, en fait, il y a eu un problème technique et en même temps, il y a eu une catastrophe naturelle imprévisible, on va dire, et ce qui a aggravé les choses.
Ouais, sûrement. Ouais.
Déjà que c'était grave, du coup, avec le tsunami, ça a aggravé encore plus.
Oui.
Surtout du coup qu'il y a dû y avoir c'était inondé, donc du coup la radioactivité est allée dans l'eau.
Ça s'est éparpillé. Après, il y a eu un gros nuage aussi.
Surtout que je me souviens
bien
un
gros nuage radioactif après qui est venu.
C'est bien possible.
Je crois qu'il est. Je sais pas s'il est passé sur la France, mais il a traversé des pays et tout ça.
Ok. Tu allais dire quoi?
Ouais, il y a eu des rejets massifs aussi dans l'atmosphère, l'atmosphère qui se sont dégagés et dans l'environnement.
Ok, voilà.
D'accord.
Ouais.
Junior,
J'avais cru entendre qu'ils avaient. Il n'avait pas refroidi à temps le réacteur.
D'accord.
Donc c'était à cause de ça. Donc il a trop chauffé, on l'a pas refroidi à temps.
D'accord. Ouais. Ok. Parce que, en fait, vu que c'est une réaction en chaîne, ça continue tout seul. Donc, si jamais on ne fait pas refroidir, en fait, ça pète, quoi.
Tout pète.
C'est ça l'idée. Ouais, okay. Bon, ok. Donc, il faut maintenir une température constante,
stable.
En fait. Stable. Ok.
Ouais.
Tu as dit c'était quand déjà ? Je ne me rappelle plus.
Le 11 mars 2011. Il y a 6 ans.
À peu près. Putain, il y a déjà. Ah ouais, d'accord. Ok, presque 6 ans, ouais. Putain, ça passe vite, c'est fou.
Ouais, c'est clair.
Ok, bon, mais merci pour cette information-là. On avait du coup une autre centrale donc qu'on a évoquée quand les micros étaient coupés, c'est Tchernobyl, évidemment, qui a eu lieu en 86. C'était vraiment l'échec de l'URSS, on va dire, le premier. Et donc cette centrale, donc explosion. Alors, peut-être que c'est pareil, c'est par défaillance technique, probablement. Je ne le sais pas vraiment, mais en tout cas ce qui nous intéresse là, c'est que c'est une actualité très 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 récente, Tchernobyl, puisque depuis donc 30 ans on disait, c'est ça, 86,
ouais.
30 ans,
ouais, c'est ça.
Ouais,
eh bien il y a un rejet permanent de radioactivité en fait,
ouais,
c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne s'arrête plus, des fuites radioactives et on ne sait plus comment lutter contre ça. Lucas, je crois que tu vas nous aider un peu là-dessus, qu'est-ce que tu as trouvé toi là-dessus récemment, qu'est-ce qui s'est passé?
Je suis tombé sur un article qui parlait d'une arche en fait.
Ouais.
Donc en fait c'est un dispositif de confinement en fait du réacteur numéro 4 de la centrale. Donc en fait c'est une structure métallique en forme d'arche. Donc qui fait 108 mètres de haut et 162 mètres de large pour une portée de 257 mètres. Donc, elle a été mise en place donc en 2016, mais avec plusieurs années de retard par rapport au projet initial qui prévoyait de la mettre en place en 2012. Donc, faut savoir qu'on a commencé à construire les pièces en septembre 2007 et qu'elle aurait dû être posée en 2012. Et en fait, en 2016, on la pose à peine, quoi.
D'accord. Donc il y a eu beaucoup de retard sur le chantier.
Ouais. Il y a eu pas mal de retard, ouais.
Ok. Donc voilà, ça c'est vraiment la dernière actu par rapport à Tchernobyl. Bon, il y a très probablement d'autres problèmes, d'autres accidents. Il y a dû en avoir d'autres. On n'a pas eu le temps de tout voir. Mais je crois qu'on a fait à peu près le tour des choses. Ce qu'on pourrait dire là par rapport à cette histoire de dôme, enfin d'arche. Que tu disais tout à l'heure, c'est que ça peut être infini, quoi. On peut toujours, s'il faut, dans 30 ans, les fuites ne seront pas terminées.
Ben oui,
il faudra mettre un autre dôme par-dessus celui-là.
Ben oui, parce que de toute façon, il faut savoir que le dôme, il va être entièrement fermé, mais ce ne sera pas parfait. Donc, il y aura toujours des fuites qui vont passer dans des petits trous, qui vont toujours passer, quoi. Mm-hmm. Mais je pense qu'on pourrait l'arrêter, mais il faudrait mettre une arche par-dessus une autre arche, par-dessus une autre, etc. Mais ça finirait par un truc énorme et ça m'étonnerait que de nos jours, là, on ait suffisamment de moyens pour avoir une solution à ce problème, quoi.
Ouais. Bah là, du coup, pour boucler la boucle, si on repart sur la question de la technique... on disait tout à l'heure que la technique, pour certains, et traditionnellement, c'était le propre de l'humain, justement, pour lutter contre, justement, ses limites, en fait, dans l'état naturel et dans l'environnement, puisque c'est l'animal le plus dépourvu. Donc, c'est pour le bien, entre guillemets. On crée des techniques pour s'améliorer, pour pouvoir vivre mieux. Et là, en fait, avec l'avancement technologique et technique auquel qu'on a atteint, eh bien, on se rend compte qu'avec des problèmes comme Tchernobyl ou Fukushima, la technique, elle peut être aussi très, 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 très néfaste. Et en fait, je pense qu'il est bon de continuer à s'interroger sur la technique, sur le bien fondé de la technique et sur notre rapport à la puissance, parce que c'est aussi ça la question, et sur les dangers que ça nous fait courir. Voilà, merci en tout cas les garçons pour cette émission. Ça vous a été très bien.
Plaisir,
merci Aurélien d'avoir été là aussi.
Merci pour l'invitation.
Et on se retrouve pas dans deux semaines parce qu'on sera en vacances, ça va nous faire du bien à tous. Mais à la rentrée, du coup, pour une nouvelle émission, on ne sait pas trop encore sur quoi. On va réfléchir, on vous prépare quelque chose de chaud et de radioactif en tout cas. Merci les garçons, à bientôt. Dazed and drowsed, she sleeps instead of weeping. In the rage of the gauge, she turns a page. So she can fly like some free bird. In the hands of the Sandman, no need for words. In the deep, she keeps no regrets and has no debts. Time unwinds and her
gentle smile as she begins to win control on her own soul. A worries crouched down in the corner without a warning. Ain't nothing colder than the cold shoulder. City boom booming at her bedside, eyes open wide. At her bedside, eyes open wide. It's a one-way ticket. It's a one-way ticket. It's a one-way ticket to the other side. But she is no longer able to put food on the table. She can no longer stand. She's in the hand of the Sandman. But does she close those firefly eyes? Does she hear the fear or feel the cry? Or the sigh of what might be a silent fight for some forgotten right? Maybe the way some seem to be saying, wake up, wake no up, dream in this hollow house. I got to call out like I ain't never been heard. Got to use the power of the word. Strife.